Bonjour à tous. Je viens vous parler donc, du cours de perfectionnement qui est le cours de troisième année. Donc, en fait, derrière ce nom de perfectionnement, c'est l'élevage de rennes et la. Donc, il n'y a pas de surpoint. C'est l'élevage de rennes et la division des colonies qui est abordée. Du coup, cette année, le cours a eu lieu pour la première fois à La Duquière. D'habitude, il avait lieu à Courvoyer, mais pour des soucis de temps de trajet et de praticité, on l'a mis à La Duquière cette année. Il y a eu des élèves qui attendaient ce cours parce qu'ils étaient justement à Courvoyer et qui sont du Perche, donc ils espéraient faire du Perche, mais bon, on a quand même maintenu à La Duquière. Nous serons trois animateurs. Il y aura donc Jean-François Play qui va nous rejoindre. Il y a Jean-François Duval et il y a moi-même. En fait, le cours a été donc divisé en deux parties. Il se comporte de deux journées complètes. La première se passe en avril. Et maintenant, on aborde la théorie de la division des colonies, de la multiplication du cheptel. Et l'après-midi, en théorie, on est censé aller au rucher et faire des divisions, montrer ce qu'on a vu en fait le matin même. Sauf que cette année, on a eu un temps au mois d'avril tellement pluvieux et froid qu'on a décidé d'abandonner d'aller au rucher et de voir directement les vaches de rennes en cours. Donc de faire toute la théorie en une journée en avril, en espérant qu'un mois après, il ferait beau et qu'on pourrait aller au ruche faire toute la pratique. Donc la première journée, donc le matin, ça a été le paquet d'abeilles et les essaims sur cadre qui ont été abordés. Et l'après-midi, nous avons vu l'élevage de rennes en salle de classe, donc les techniques plus ou moins développées d'élevage de rennes. Nous avons aussi parlé de la dynamique des colonies au printemps en fonction de l'environnement, de la météo et des périodes propices à la création d'essaims et à l'élevage de rennes. La deuxième journée, donc, qui s'est passée au mois de mai, a été consacrée exclusivement à la pratique. Le matin, nous avons fait plusieurs essaims sur cadre et en paquet d'abeilles sur les colonies des ruchers de C. Donc les ruchers de C, en fait, c'est les ruchers de l'autoroute qu'on a pu utiliser, qui nous ont été mis à disposition par le CETA. Et donc l'après-midi, nous sommes allés chez Jean-François Duval afin d'aborder la pratique de l'élevage de rennes. Donc voilà, on a fait une éleveuse, on a préparé une éleveuse pour accueillir le greffage et on a fait greffer les élèves pour qu'ils découvrent cette pratique. Nous avons utilisé un plateau cloque, donc c'était la technique utilisée. Voilà, et puis après, on va l'enfeuiner et puis on a introduit notre greffage. On a eu un résultat qui était très mauvais. La difficulté de l'élevage de rennes, c'est que les conditions jouent beaucoup, le temps, la météo, donc là on a des grosses conditions météo, et puis il faut quand même une préparation en amont un peu. Donc, on va y travailler cette année pour être un peu mieux rodé, avoir la préparation des colonies et de. Donc, une fois la pratique terminée, Jean-François nous a invités à prendre un verre à tabler chez lui, donc c'était très sympa. Merci à Gérard Vesque pour avoir mis à disposition la salle de la Duquière et à Jean-François qui a proposé de faire la pratique des vaches chez lui.
Oui, je voulais ajouter tout à l'heure que lorsqu'on termine le cours de deuxième année, maintenant on dit systématiquement aux élèves qu'ils ne se précipitent pas au perfectionnement hein, et qu'ils vont mieux pratiquer, selon les personnes, ça peut être une année, ça peut être plusieurs années ou pas du tout, mais qu'on en ressent vraiment le besoin hein, parce que vous avez entendu à l'instant, Lucien nous a parlé d'élevage de rennes. Et de techniques de multiplication un petit peu plus sophistiquées que celles qu'on utilise en deuxième année, voilà. Donc ne pas se précipiter. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que cette année nous avons eu trois redoublants. Hein. Alors, quand on dit redoublants, on se dit c'est des gens qui n'ont rien compris et qui reviennent. pour en faire un petit tour. Et en fait, non, c'est exactement le contraire. Hein. C'est-à-dire que c'est même assez étonnant. C'est que je peux vous dire que ce sont probablement les trois meilleurs, ou parmi les trois meilleurs, de l'année précédente qui sont revenus cette année. Et c'est plutôt réconfortant, hein, parce qu'encore une fois, en agriculture, et même quand on a beaucoup d'expérience, on voit qu'on a énormément à apprendre toujours. Voilà. Et que lorsqu'il y a des personnes qui ont suffisamment apprécié l'année, mais qui se disent « il y a encore à apprendre », eh bien, c'est une bonne chose. Merci.
Toutes les années, enfin surtout les deuxième et troisième années, vous pouvez les redoubler autant de fois que vous voulez, il faut le savoir. Vous voulez refaire une deuxième première année, vous pouvez. Vous voulez faire une deuxième année, vous dites ben, « je l'ai fait il y a 2-3 ans, je ne m'en rappelle plus », vous pouvez la refaire. On fait autant de fois qu'on veut, jusqu'à ce qu'on soit satisfait ou conforté dans ses connaissances. Là, on a un peu d'avance. Moi, je pensais qu'on allait être en retard. Je vais vous présenter le projet de Biellerie. Mais avant ça, Meyer, il est quoi, trésorier adjoint, secrétaire adjoint, je ne sais plus, il est adjoint des deux trucs, peut-être. Va vous donner le résultat des élections. Et je vais vous présenter après le projet de Biellerie, ça va nous gagner du temps sur l'après-midi. Ou alors, non, on va avoir le temps de manger tranquillement. C'est surtout ça.
Bonjour tout le monde. Donc, le nombre de suffrages exprimés est 107. Les nombres de voix obtenues, M. Plé, 105 voix. M. Davis, 104 voix. M. Donné, 107 voix.
Donne,
pardon. Éric Lecoq, 107 voix. Olivier, 107 voix. Donc, les 5 personnes suspendues sont toutes reconduites. Voilà.
Alors, je vais vous présenter notre projet de Biellerie, parce que vous avez dû en entendre parler sur les journaux, entre vous, sans savoir exactement ce qu'on voulait faire. Il nous faut une Biellerie à la fois pour le CETA et aussi pour nos adhérents. Quand vous êtes débutant, acheter un extracteur sans savoir trop si vous allez continuer tout ça, c'est des fois un investissement qui peut rebuter. Un extracteur électrique avec un peu de matériel, on a tout de suite investi 1500 à 2000 euros. Donc, on aurait une miellerie, une salle dédiée. Pour les petites quantités, vous pouvez utiliser ce matériel-là dans la pièce qu'il faut. Pour le CETA, vous avez vu qu'on a 450 ruches. Le but, c'était d'avoir une chaîne d'extraction professionnelle pour pouvoir extraire rapidement. Imaginez qu'il y ait seulement une hausse au printemps, une hausse en été. C'est pas loin de 1900 hausses à faire. Et quand on est bénévole, c'est bien, mais pour une petite quantité, ça va. Une grosse quantité comme ça devient une contrainte. Donc on s'est dit, on va équiper, c'est le cheminement logique, c'est d'avoir ce matériel-là. Et ce matériel-là, comme il marche bien, il marche vite, on va l'ouvrir, le matériel professionnel, aux apiculteurs qui auraient 40-50 ruches. Ça leur permettra d'extraire sans avoir à investir, parce que le matériel d'extraction professionnel, eh bien, c'est les yeux de la tête pour du matériel qui sert 2 ou 3 jours dans l'année. Donc on s'est dit, le gars il a 50 ruches, il ne veut pas investir 40 000 euros dans ce matériel-là, ben, il profitera de ce qu'on a. Dans un lieu adapté, dans un lieu, avec des services complémentaires, c'est-à-dire il y aura l'extraction, il pourra y avoir le conditionnement, il pourra y avoir avant le séchage du miel. Vous savez, le miel qu'on a exclu pas mal de cette année, parce que c'était une année humide, pas mal de miel au concours parce qu'ils dépensaient les 18,2, alors qu'au goût, ils étaient très bons, mais ils n'ont pas été primés, parce que à cause d'humidité. Nous, on peut resécher le miel et qu'on a le matériel. Donc, c'est tout un ensemble de services que, si on réussit à faire la miellerie, vous pourrez avoir. Alors, dans un premier temps, ça devait être dans l'usine de notre sponsor, le fabricant de bougies, Trudon. Ils ont doublé la surface de leur usine et nous avaient réservé un emplacement de 70 mètres carrés avec des murs, enfin c'était fait, une fenêtre pour que les visiteurs de l'usine puissent voir la miellerie de l'intérieur de l'usine sans rentrer dedans, pour nous voir travailler éventuellement. Et cette année, le directeur a changé. Et le nouveau directeur a dit avec l'assurance, il leur dit, pourrait utiliser si vous assurez votre miellerie à la hauteur de ce que nous avons, nous, dans nos bâtiments. C'est plusieurs millions d'euros, leur stock. On peut pas, c'est pas possible. Et ils nous ont dit, de toute façon, moi, nouveau directeur, j'y tiens pas trop. Mais on continue notre partenariat de sponsoring avec la gamme de bougies. Donc on s'est retourné. Alors là, on était à la veille, mais pratiquement à quelques heures de lancer nos appels d'offres. Parce que quand on fait des appels d'offres pour les cloisons, le matériel qui vient de chez plusieurs fournisseurs, par exemple, les petits chariots pour déplacer les hausses, c'est chez un fournisseur, l'extracteur chez un autre, les empoteuses et tout ça, c'est un troisième. Enfin, bon, il faut, dans le cadre des appels d'offres, dans la mesure où on touche des subventions, que ce soit tous lancés au même moment, pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Donc on était prêts, et au moment qu'on a appelé pour avoir l'adresse, la dernière renseignement, ils ont dit non, on arrête. C'est le mois de juillet, mi-juillet même. Oui. Alors, on s'est dit, puisqu'on n'a pas de lieu là-bas, va falloir qu'on fasse ça à la Bulletière. Est-ce que c'est possible de faire ça à la Bulletière? On s'est dit, si on réaménage les bâtiments, on vide le magasin par exemple, et qu'on pousse on installe ça dans les autres bâtiments, on a fait une réunion avec tout le CA, on a regardé, on a dit non, c'est pas faisable vraiment notre truc. Les bâtiments sont fragiles, ça va nous coûter les yeux de la tête. Le plus simple et le moins cher, ça sera de construire du neuf. On a fait appel à un architecte qui a étudié le truc, a dit les distances par rapport au voisinage et tout ça. Ils m'ont dit, vous projetiez 100 mètres carrés, c'est pas possible, vu la surface et l'emplacement que vous avez choisi. On a un projet avec un bâtiment de 80 mètres carrés. Qui est, voilà, en... c'est presque ça, sauf que dans la pratique, ça va être en symétrie. C'est-à-dire que la grande porte, elle va être là et la petite porte, elle va être là. Mais bon, c'est juste ce changement-là. Ça change l'intérieur aussi. Mais alors, l'intérieur, voilà comment on avait prévu de le faire. La grande porte, elle ouvre là. Vous rentrez et en face, le carré qui est tout en haut, c'est ce qu'on appelle une étuve. Alors, une étuve, c'est une pièce qu'on chauffe à la température de la ruche et on met un déshumidificateur, c'est-à-dire que les hausses, on les pose une à un sens, une à ça, les unes sur les autres, l'air circule et ça assèche le miel, ce qui fait qu'on ne perd plus un gramme de miel. Le miel qui est trop humide, il peut fermenter et c'est une catastrophe. Donc, en entrée, est-ce qu'il va marcher bon, petit bouton ? Voilà, là, cette zone-là, c'est la zone d'accueil, des fûts de stockage, des palettes pour stocker des pots de verre, l'étuve, ça rentre dans ce sens-là, ça ressort dans cette pièce-là, là, c'est l'emplacement de la chaîne professionnelle, ici, c'est la chaîne amateur, là, dématurateur, une empoteuse, on a prévu même en fait, de la mettre là. On stockerait notre miel, mis en fût, ici. Mis en fût parce que, à partir du miel mis en fût, soit le mettre en pot quand on veut, ou soit le livrer au grossiste. Parce que cette année, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais donné les tarifs de reprise des miels, et il m'a dit, je ne le reprends plus en seau, parce que le gars qui le collecte, qui gère l'usine, il dit, moi je ne veux plus faire ce boulot-là, c'est trop dur. Et je comprends, il y a énormément de travail. Là, quand on aura notre miellerie, si on arrive à l'avoir, parce que pour l'instant ça coince, quand on l'aura, on pourra récupérer vos miels en seau peser le bidon plein, vider le miel dans un fût, peser le bidon vide avec le miel qui est sur les parois, faire la différence, on saura combien vous avez apporté de kilos de miel, et on pourra vous régler quand on livrera ce miel-là en fin de saison. Actuellement, on est incapable de le faire. Et ce service de vente, en gros, de surplus de miel, on est pratiquement les... Je crois même qu'on est les seuls en France à le faire, à le proposer à nos adhérents, de livrer vos excédents de miel. Donc on pourra reprendre ça si on arrive à faire notre miel de jour. Alors on pourra conditionner vos miels, ou le nôtre, en pot de verre. On a une empoteuse, on aura une empoteuse, on aura l'étiqueteuse, on aura tout ce qu'il faut pour le matériel. Une autre photo. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, c'est des vues simulées. En gros, vue du ciel, on rentre la grande porte, et ça c'est le mur. On rentre par là, ça c'est les cuves, en face c'est les cuves. Une autre vue, alors là, hop. Tu vois, Encore. Là, on rentre, donc je ne sais plus, oui. Ça, c'est la sortie de l'étuve. Ça rentre là. Ça sera la chaîne d'extraction professionnelle. Là, ça sera la chaîne amateur. C'est des dessins, hein, c'est pas à l'échelle. Là, c'est une ligne de maturateur. Bon, voilà, vous voyez, c'est la sortie de l'étuve. Et puis, là, c'est une porte à double battant pour pouvoir rouler avec un transpalette. Là, c'est une autre vue encore de... Il n'y aura pas de fenêtre, là, parce qu'on n'a pas le droit de mettre une fenêtre qui donne directement sur le voisin. C'est ce que nous a dit l'architecte. En gros, c'est ça. On rentre, réception, les hausses sur des chariots, pose dans les tubes, maintien à température, extraction, maturateur, empotage, et puis mis en carton, chaque repart. Hein,
la marche en avant.
Ça s'appelle la marche en avant. Les gens qui sont dans les restaurants ou les abattoirs, on part d'une zone qu'on appelle la zone sale et on va vers la zone propre. Et on ne recule jamais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Voilà, donc c'est d'autres vues, hein, vue du ciel encore. En gros, ce sera ça, si on arrive à le faire, en symétrie. Pourquoi je dis toujours, si on arrive à le faire? Parce que la communauté des sources dont fait partie Chaïwe, la ville pressée, c'est grand, hein, a modifié son plan de local d'urbanisme, son PLU. Et à partir du 21 novembre, le PLU interdit ou classe la Dultière en zone naturelle, avec interdiction de construire même pour les résidents. C'est un peu une erreur. Mais le problème, c'est que les gens qui veulent instruire le dossier disent « Ah ben on fera les décisions en fonction de la date de la fin de l'instruction. » Moi, j'ai déposé mon dossier avant le 21 novembre. 21 novembre, changement de PLU, j'ai déposé le 8. Donc le 8, je suis sous l'ancien plan d'occupation des sols. C'est au moment des faits que doit s'appliquer la loi, c'est pas après. Imaginez par exemple pour les... Vous avez dû entendre ça à la télé, un mineur. Le gars, il a 17 ans et demi. Il a tabassé quelqu'un pour lui piquer son sac à main. Il a 23 ans, il a fait 2-3 ans de prison, mais il a 23 ans, il sera jugé au tribunal des mineurs. Il sera pas jugé au tribunal des adultes, puisque les faits sont au moment de l'acte. Donc j'ai déposé... La loi, elle est comme ça pour toutes les lois de France. J'ai déposé mon permis de construire au moment de l'ancien PLU et j'entends qu'il soit étudié dans cette réglementation-là. Mais j'ai l'impression qu'on a un fonctionnaire qui fait de la rétention parce qu'il m'a donné des informations, mais comme il s'est trompé, qu'il ne veut pas admettre qu'il s'est trompé, ben, il bloque. Alors je lui ai écrit hier, c'est plus le même, c'est un autre, enfin, c'est une de ses chefs de service certainement, et je lui ai dit que ce sera certainement le tribunal administratif qui dira qui a raison de vous ou de moi. Parce que gérer le permis de construire, si je veux. On a déposé pour ça à la communauté des sources, une étude de filière. C'est un terme technique qui désigne l'assainissement, c'est-à-dire qu'on part de la viellerie, on rejoint nos fosses. La maison est reliée toujours à ces fosses-là. On sera obligé de remettre un bac supplémentaire qui fasse un traitement complémentaire avec une pompe de relevage. Il y a des investissements pour rejeter l'eau dans le fossé. Et ça sera de l'eau assainie. Tout ça, c'est correct. C'est dans les règles. On a payé le cabinet pour ça. Notre architecte va nous suivre les travaux si on arrive à avoir le permis de construire. Enfin, tout est... C'est un gros dossier, ça fait 2 ans qu'on est dessus, ça serait un peu con qu'à la veille d'avoir ça, on ne puisse pas l'avoir. Surtout que ça va profiter à 400, peut-être pas 400 adhérents qui vont en profiter, mais ça va profiter à beaucoup de gens quand même au sein de notre association. Surtout que les nouveaux n'auront pas besoin d'investir autant dans du matériel qui coûte cher. L'inox est hors de prix. Voilà. Alors voilà où on en est. Notre diapo, je ne sais plus, non ? Non, je vous ai tout montré. Avez-vous des questions ? Ou avez-vous des solutions pour m'aider ?
Attendez. T'as oublié de dire
qu'on avait des subventions. Ah oui, des subventions. Oui, dans la démarche pour monter le projet Viellerie, il faut des sous, ça coûte cher. Dans l'usine à Saint-Langis, on n'avait pas les murs à construire. Mais on avait assez de trésorerie pour pouvoir monter à l'intérieur du bâtiment une sorte de coque isolante qu'elle est fournie par Maine Agrotech. Vous devez voir ça si vous êtes abonné à les journaux, font de la pub chaque mois dans les journaux apicoles. Donc on avait un budget de 90 000 euros à cette époque-là. On a fait une demande de prêt européen, leader, pour avoir droit à ce que le leader s'occupe de notre cas. Il faut qu'on soit porté par une communauté, une mairie ou une... Là, dans notre cas, c'est le département. Le département nous a accordé 8 000 euros pour notre projet. Dès lors qu'on a une somme d'accordée par une communauté, le projet leader est multiplié par 4. Qui veut dire qu'on avait 32 000 par le leader si on arrive à le monter. Donc on a 8 plus 32, 40 000 euros de subvention. Il nous faut trouver le reste. Alors j'avais déjà défendu le projet à Mortagne puisque ça devait être dans la... au niveau des départements, les projets leaders sont gérés par des pays. Pays, c'est des zones. Hein. La zone de Mortagne avait géré à Mortagne. Maintenant qu'on est ramené à la Tulière, et bien c'est le pays d'Alençon qui gère le... Donc on a représenté notre projet, réexpliqué devant des élus de toutes sortes, que je ne connais pas, mais qui nous posent des questions pointues, et on répond. Ça, c'est assez rapide. Il faut avoir tant de points, si on a tant de points, on est accepté. Donc on a été accepté. Et lors du dernier, défense du projet, là, il y a une dame qui me dit, mais le PLU de Chaillouet, il change, hein, vous savez. Je dis non. Je dis, autour de nous, il y a eu 2 maisons construites. Il y a une maison, vous l'avez vu, la maison neuve, quand vous arrivez en face. Juste derrière le magasin de magasin où est Jean-Marie, il y a une maison qui se construit, qui s'est construite en travers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un gars qui construit ça le week-end. Il y a eu notre voisin en face qui a construit un garage. Il y a la maison plus loin dans le premier village qui a construit un abri pour ses voitures. Enfin, il y a 4 permis de construire qui ont été déposés. Le nôtre, c'est le 5e. Ce serait incompréhensible qu'avec la même réglementation, je ne puisse pas l'avoir. Mais je pense qu'il va falloir qu'on bataille encore pour... C'est fatigant, hein, pour vous dire. Surtout que j'avais quoi sur place. On dit vous aviez qu'à venir quand c'était l'enquête. Moi, j'ai jamais su qu'il y avait une enquête. L'enquête, elle s'est passée en été. Alors.
Au mois de juillet,
comme ça. Bon, enfin, c'est ça les joies de la présidence de l'UAO, ça, et du CETA. Ça donne des cheveux blancs.
Une question, là.
Oui.
le budget pour le bâtiment plus...
Je pense qu'on est à 140 000.
Et plus 80 000 pour le...
Non. Le matériel, extraction et tout ça, on est à 40 000 à peu près. Chaîne d'extraction. Après, le bâtiment, je pense qu'avec... combien 80 000 Je sais pas. On n'a pas de... On
arrive. Je vais te dire.
Oui, bon. Je sais pas, parce que comme tout a changé...
Oui, 90 000 pour les travaux aménagement.
Travaux aménagement, 90 000.
Le matériel, 50 000.
Oui, 50 000.
Et la prestation, 3 000.
Prestation, c'est
eh
le...
Ben, c'est l'architecte.
L'architecte. L'architecte, voilà. Il prend de l'argent pour... Mais c'est un dossier, hein. C'est un boulot d'être monter un dossier.
Alors,
comme
donc,
ça.
Vous avez 40 000 d'aide
européenne
et du département, 40 000. Un autofinancement normalement de 103 000.
Donc, 103 000 qui nous resterait à trouver.
D'autofinancement. Et vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait 80 000 sur les livrets, mais on ne sera pas exonéré. On ne sera pas exonéré de faire un emprunt. Alors j'ai fait une petite simulation pour des emprunts, j'avais présenté au conseil d'administration. Et donc, si on imagine qu'on emprunte 50 000, et puis on diminue moins notre, sur nos réserves sur l'emprunt, parce qu'on ne sait jamais qu'il peut y avoir des choses qu'on n'a pas calculées vraiment. Donc 50 000, j'ai fait un petit, je sais, il me semble que les taux en ce moment sont dans les 3,5%, grosso modo, je pense. Et donc 6 sur 10 ans, ça nous ferait un montant d'échéance de 400, à peine 500 euros par mois. Donc voilà. Donc je pense que ça peut marcher parce qu'on a quand même un renouvellement tout. Non, pour moi, je ne vois pas de problème. Donc voilà.
Je vous disais.
Oui.
Si on fait des dons, c'est des fiscalisations.
J'entends pas. Alors les dons qui sont faits pour un particulier, c'est des fiscalisables à hauteur de 66%. Mmh. Si vous le faites dans le cadre d'une entreprise, c'est 60%.
Non, c'est particulier.
Particulier, 66%. Dès qu'on reçoit le don, nous on émet le reçu au guichet don. On fait ça. Je suis à. Combien j'ai fait de reçus?
Ah ben, je sais pas.
Depuis le début qu'on a ça, plus de 300. Plus de 300. Bon, il y a des petits dons. Il y a des petits dons, il y a des dons énormes, mais il y a tout. Mais le fait d'être en CETA, en association loi 1901, nous a permis d'obtenir des dons. On a fait un rescrit fiscal auprès des impôts et on est habilité, tout est carré. Et chaque année, on leur donne la liste des dons qu'on a reçus. On ne risque rien de ce point de vue-là, tout est. Ce ne sera pas un faux.
C'est-à-dire, ce que je veux dire, on peut faire un don spécifique pour la bienvenue.
C'est un don au CETA. C'est un don au CETA et le CETA. Utilise l'argent des dons pour ça sera pour purger les mairies. Non, on a fait ça, on a reçu un don de la société que vous disiez Françoise, un toit pour les abeilles, c'est une société commerciale qui place des ruches à droite à gauche, qui rémunère un peu les agriculteurs qui s'en occupent. Ils nous ont dit on a beaucoup d'argent et le projet de sauvegarde d'abeilles noires que vous mettez en place, nous, on le trouve très intéressant. Voulez-vous qu'on vous aide? Alors on a expliqué qu'on avait un projet de minerie, ils nous ont dit, ben, on va vous donner 10 000 euros. On a fait un reçu au titre des dons. En fait, eux, ça leur a coûté que 4 000 euros.
Et autre chose, par rapport au problème avec l'administration, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de recontacter le journaliste qui nous a fait un article en lui expliquant clairement la situation? Ça fait pas mal
de
bouger les choses.
Oui, on attend d'abord de savoir si on est refusé ou pas. Il faut d'abord qu'on aille dans l'ordre. Notre députée, je ne sais pas si vous avez remarqué, Chantal Jourdan, qui est députée de la première circonscription, a assisté à une grande partie de notre Assemblée générale, elle était au deuxième rang. Elle est aussi adhérente de l'UAO et du CETA, par le fait. Donc, elle est au courant du projet, elle connaît beaucoup de personne, puisque de par son métier, elle rencontre toutes les semaines presque. Donc elle va nous aider à suivre. Et puis comme c'est des gens qui font la loi, ils connaissent les lois et savent les. Connaissent tout, ils peuvent nous aider. Ils ont des services juridiques. Donc je ne m'avoue pas vaincu, mais je sens qu'on va encore attendre alors qu'on est prêt à fonctionner.
Surtout qu'ils ont dit dans 3 mois les résultats.
Oui.
Surtout, ils nous ont dit quand on a reçu le RSCDC qu'ils donnaient leur avis dans 3 mois. Donc j'espère qu'on va l'avoir avant.
Ben voilà, on ne sait pas pour l'instant.
C'est à 3 mois.
L'avis ou non.
Oui, si on n'a pas de réponse dans les 3 mois, c'est acquis. Mais pour l'instant.
Oui, c'est acquis. Mais pour l'instant, il n'y est pas.
C'est compliqué. Beaucoup de choses sont compliquées. On n'avait pas vu que c'était si compliqué que ça, la vie.
Oui, mais on ne savait pas aussi.
On a des complications. Enfin, des complications. Avoir un salarié, ça paraît tout simple. Hein. Le recrutement, c'est facile. Après, la gestion du salarié avec les différentes caisses et puis le... Hein ? Vous vous rendez pas compte ? Vous vous rendez pas compte la chance qu'on a d'avoir Françoise pour débrouiller des problèmes aussi compliqués que ça.
On vous aime.
Ah non, mais on peut le dire. Tout le monde peut le dire.
Si, c'est vrai, c'est vrai, c'est...
Je suis pas indispensable, là.
Ouais. Si t'étais pas là, on ne ferait rien de tout ça.
Ah, si.
Moi, je ne saurais pas assez compétent.
Non, il y en a d'autres.
Ben voilà, alors, on a réussi à faire notre assemblée en 3 heures.
Il y a encore une question ?
Oui, allez-y. Ah là, attendez, je vais prendre monsieur là d'abord. Ouais. Je l'ai vu en premier.
Juste une petite question. On parlait tout à l'heure d'économie CETA, on a l'impression que du coup, il y en a beaucoup.
Oui.
Et par rapport aux chiffres, il y avait une diminution du stock qui était significative sur le cheptel. Donc moi, je ne saisis pas là. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des ventes ?
Le stock est global et le stock il comprend aussi le stock de miel. Comme on a vendu du miel, notre stock de miel, on a fait parce que comme on n'a pas pu vendre le miel au manoir des abeilles, parce que le miel des adhérents était en saut, on a déstocké le miel du conservatoire. On a fait un camion. Hein. Combien qu'on avait emmené, je ne sais plus, mais combien il y avait de camions. Lucien, tu t'en rappelles ?
Il y avait 6
tonnes. 6 tonnes. On a envoyé 6 tonnes, ça fait 20 flux. Donc 6 tonnes de moins, eh ben ça diminue le stock du CETA. Et la récolte qu'on a eue cette année, elle n'a pas compensé les. En année normale, ça aurait pu le faire.
Le cheptel.
Oui.
Non, c'est pas du cheptel.
Non, c'est pas le cheptel. Le cheptel n'a pas bougé. On est à 450 colonies. Non, on était à 430 l'année dernière.
Il y a une diminution quand même.
Petite diminution.
Par rapport à l'année dernière,
ouais.
Et de cette année, il y a une diminution du nombre de...
De colonies ?
De colonies.
Légère.
Légère, très légère.
Oui, oui, mais il y a une diminution quand même. Et la valeur, je l'ai mis toujours à la même valeur que l'année dernière. On l'a mis à la valeur, c'est comme si on était remboursé par l'assurance. Voilà.
Oui, en fait, notre cheptel, il est sous-évalué, hein, parce que les assurances ne remboursent pas le prix que ça vaut. Voilà, alors, il y a des questions par là, je ne sais pour qui.
Moi, j'ai juste savoir comment vous avez abordé le volet énergétique, notamment par rapport à l'étude. Aujourd'hui, l'énergie, c'est un sujet,
oui.
Et c'est un coût, et ça peut impacter...
Alors, là, on a étudié les panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, pour des petites surfaces, c'est à nous de les payer, on n'a pas les moyens. Donc c'est ce que j'ai expliqué à la commission du pays d'Alençon. J'ai dit, on avait étudié ça, on avait imaginé un toit en pente, d'une seule pente, et on n'aura pas les moyens, l'architecte nous a dit, on va faire un toit à 2 pentes. Et j'ai contacté des sociétés, pour dire, parce que je dis, on en met des panneaux solaires sur le toit de notre bâtiment, on avait prévu 100 mètres par étagerie. Et puis je dis, on en met aussi sur le magasin à Jean-Marie. On serait à 200 mètres carrés, puis 200 mètres carrés, voire à moins de 1000 mètres carrés, on ne se déplace pas. À 1000 mètres carrés, on vous le finance. Moins de 1000 mètres carrés, c'est à nous de payer l'installation, on n'a pas les moyens. Donc, comme on ne peut pas... Mais on a étudié. Ça aurait été bien de pouvoir le faire. Il y avait d'autres questions, non? Tout en haut, non?
Non, c'est bon.
Valérie, tu voulais pas dire quelque chose, non?
Non.
Non, non, c'est, tu me faisais signe, d'accord. Bon, ben, il est midi. C'est l'heure de la vérité. Comment? Ben, on mange bientôt, hein, c'est... On a un apéro, je pense, je ne sais pas comment. Je ne suis pas occupé de l'organisation des repas. Voilà. Et cet après-midi, on commence théoriquement. Alors, je vais présenter la mairie à 14h30. Puisque nos intervenants sont convoqués pour cette heure-là. Ou alors, non, on commence à 14h et ce sera Pascal Tantin qui vous parlera du traitement alternatif varois. On va s'adapter avec ça.